chapitres entre les 11 et les 14 qui sont des chapitres très importants pour nous, pour nos assemblées et pour chacun de nous. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter l'homme et la femme dans l'assemblée. L'homme et la femme dans l'assemblée. Et il se trouve justement dans le chapitre 11. Et nous allons le lire, ce chapitre, pour que nous soyons bien imprégnés de ces choses-là, bien sûr. Mais on va lire jusqu'au verset 16. Alors, 11, 1 à 16. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises des dieux. Amen. Voilà, Paul, dans ces versets, il parle de l'adoration dans l'assemblée. Et au verset 2, il loue les Corinthiens, l'Église, ses interlocuteurs auxquels il parle, d'avoir gardé la pratique, les habitudes, les instructions que Paul il leur avait transmises précédemment, lorsqu'il était parmi eux. Et sans doute, comme on dit, sans doute il avait entendu parler que dans l'Église, il y avait eu certains changements. Et ça, changement par rapport aux règles qu'il avait établies. Et il y avait un changement qui s'était produit, et c'était exactement l'émancipation de la femme. Vous voyez, c'est quelque chose qui a commencé depuis l'époque de Paul, cette émancipation. Par rapport au port du voile. Je savais que voilà pourquoi il argumente une chose, que la femme, elle doit être voilée. Ici, il utilise au verset 3, il utilise les mots chef. Le mot chef. Et en grec, c'est le mot képhalé. Képhalé, c'est une notion d'autorité. D'autorité, hein, et pas une notion d'autoritarisme. Hein, voilà. C'est une autorité. Il y a ici, dans ce verset, il y a un ordre qui est donné. Vous avez bien vu, hein? Et qui fonctionne pour l'autorité. Il dit, Dieu est le chef de Christ. Hein? Dieu est le chef de Christ, qui est le chef de l'homme, qui est le chef de la femme. Mais Paul ici, il ne donne pas cet ordre-là. Il dit quoi, Paul, ici, dans ces versets? Il dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme, le chef de la femme, et à la fin, Dieu, le chef de Christ. Tout cela pour nous montrer la prééminence de Dieu. La prééminence de Dieu. En toutes choses. Et il place l'homme et la femme entre les deux, entre Christ et Dieu. Et tout cela pour nous montrer qu'il y a un seul et unique autorité, un seul et unique chef, et c'est Christ. D'ailleurs, dans Éphésiens 1, 22, il nous le dit, Dieu a tout mis sous les pieds et l'a donné pour tête à l'Église. C'est Christ qui est la tête, le chef de l'Église. La notion qui rend mieux le mot tête, hein, c'est une question de responsabilité. C'est pas autorité, hein, c'est responsabilité. La fonction du mari vis-à-vis de la femme, c'est plus un rôle de soutien. De soutien que de contrôle. Le mari, il n'est pas là pour contrôler sa femme, mais juste un soutien. Des responsabilités plus que d'autorité. Voilà pourquoi, pour la femme, il faut que la femme, elle discerne dans les fonctions de la tête de l'homme, comme chef, quelqu'un auquel Dieu, il a donné la responsabilité de protéger, d'aider la femme à grandir dans la connaissance de Dieu. Voilà, voilà, c'est ça le mot chef. Aujourd'hui, ces mots, lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la femme, il est mal interprété. Hein? Et autorité, non, c'est pas comme ça. Mais c'est pas une question d'autorité, c'est des protection, c'est de pouvoir permettre de s'épanouir, épanouir la féminité de la femme. Parce que vous savez que la femme, comme il nous dit dans la Bible, il est un sexe faible. Et c'est ce que nous venons de lire, c'est que la femme, il a été créé pour l'homme et pas l'homme pour la femme. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait créé Ève, et alors, comme il était seul, il a dit, je vais lui faire un être semblable, quelqu'un qui soit son aide. Et dans Éphésiens, il nous a dit que le mari, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, vous voyez, cette soumission que Dieu, il demande à la femme, ce n'est pas quelque chose de dégradant, mais c'est quelque chose de fonctionnel, quelque chose de satisfaction pour la femme, parce que si le mari, il est soumis à Christ, et il se comporte comme vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de la femme, il n'y a pas de problème, parce que l'homme, il se comportera d'une façon aimable, d'une façon de soutien, une façon de protection pour la femme. Parce que la femme, dans la pensée de Dieu, il a été créé pour qu'il soit sous la, pas la domination, mais sous la protection de l'homme. D'ailleurs, vous en souvenez que lorsque Satan, le serpent, il s'est tourné vers Ève, il lui a parlé, et c'est Ève qui a pris la responsabilité de cueillir les fruits et d'en manger. Mais l'homme, il était là. L'homme, il n'a pas pris cette responsabilité d'avoir les yeux sur la femme. Et c'est pour ça que lorsque Paul il parle à Adam, il ne dit pas à la femme, tu as péché, mais il dit à l'homme, c'est toi qui as manqué, c'est pourquoi Dieu il t'a donné la femme. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes en tant que chrétiens. Nos femmes, elles sont là pour que nous les protégions, pour que nous puissions les soutenir et pour que nous puissions les aimer plus que comme Christ a aimé l'Église. Vous en souvenez que dans Éphésiens, il nous donne un ordre, Dieu, et il dit, « Marie, aimez vos femmes. » Tandis qu'à la femme, il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que la femme, c'est automatiquement. Mais l'homme, c'est un ordre que Dieu il a donné. Marie, aimez vos femmes. Et ensuite, comme je vous ai dit, il parle de l'adoration. Et Paul, il parle toujours à propos des femmes. Et il dit, les hommes, ils ne doivent pas prier la tête découverte. Pourquoi ça? Parce que dans les Juifs, ils priaient la tête couverte. Hein, ça c'est à savoir. Mais les femmes, ils doivent prier la tête couverte. Pourquoi? Parce que dans la société des Corinthiens, les femmes, hein, ils avaient la tête découverte et avec les cheveux tout qui pendait sur ses épaules. Et c'était surtout des femmes de mauvais genre. Voilà pourquoi Paul il dit, les hommes, ils doivent prier la tête découverte par rapport aux Juifs qui se couvraient la tête. Vous avez vu les Juifs qui se mettent l'espèce de couverture sur la tête. Ils doivent prier comme ça. Mais les femmes, ils doivent prier la tête couverte. Hein? Paul, il voulait maintenir cet ordre de la création. C'est l'homme qui a été créé avant la femme, et la femme, elle est sous le contrôle, sous le soutien de l'homme. Parce qu'encore une fois, c'est la femme, elle a été créée pour les besoins de l'homme, pour que l'homme ne soit pas seul, pour qu'il puisse gérer cette vie que Dieu il leur donnait. Hein? Et Paul, il réagit de plusieurs manières à propos de ces textes. Hein? Et il donne plusieurs raisons. Sans doute, les voiles ont une grande importance pour la pudeur juive. Ne pas confondre avec les autres femmes. Donc, il devait avoir quelque chose sur la tête. Le comportement de la femme, il jaillissait sur l'honneur de l'homme, parce qu'il nous est dit que la femme, c'est l'honneur de l'homme. Donc, si une femme, il s'est promené la tête découverte, il n'honorait pas le mari ou l'homme avec lequel elle était. Voilà pourquoi Paul, il dit que, et aussi autre chose, pourquoi les femmes, elles devaient avoir la tête couverte, aussi pour que, ici Paul dans ce verset, il parle des anges qui sont des spectateurs de ce monde. Ils sont là qui regardent et pour voir la différence entre la différence des sexes entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit, n'est-ce pas? Vous regardez de derrière les gens, hein, et on arrive mal à discerner qui est une femme et qui est un homme. Voilà pourquoi il nous est dit que les cheveux longs, c'est la couverture de la tête pour les femmes. Bien sûr, il faut regarder la période dans laquelle les choses ils ont été vécues, n'est-ce pas? À cette époque, à Corinthe, il y avait cette dégradation des femmes, qu'ils étaient dans les temples, qu'ils se prostituaient, ils avaient la tête découverte. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait cette différence entre les femmes juives et les femmes chrétiennes. Et Paul, il est catégorique sur ces choses-là. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'une femme, il peut prier dans l'assemblée? Est-ce qu'une femme, il doit se couvrir? Voilà, là, il faut voir les coutumes de l'époque. Aujourd'hui, les choses, ils ont changé. Vous savez que chez les darbistes, les femmes ne prient pas. Hein? Je m'en souviens toujours du couple qu'il était là. Hein, les vieux couples, pour les anciens, ils s'en souviennent, hein, comment s'appeler, messieurs, madame, Méchin. Hein, Monique, il ne priait jamais devant le mari. Jamais. Et chez les darbistes, les femmes, ils ne prient pas. Et vous savez, ça c'est quelque chose qu'ils faisaient dans le temps, pour le respect. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu, il nous dit que dans le salut, il n'y a plus de distinction. Hommes et femmes, ils sont égaux dans le salut. Tous, ils peuvent prier et les hommes, ils doivent avoir la tête découverte et les femmes, à cette époque-là, même s'ils avaient les cheveux longs, il fallait qu'ils soient couverts. Mais aujourd'hui, les cheveux, ils leur servent de couverture. Voilà pourquoi, encore une fois, il faut regarder la distinction de l'époque, les coutumes dans lesquelles les choses ils se faisaient. Aujourd'hui, cette chose-là, ça ne se fait plus. Hein? Il y a des églises où ils le font. Est-ce que si une femme se couvre la tête, pas elle pêche, hein, parce que c'est pas une question de péché. Hein. Chacun est libre. Il nous est dit que nous sommes, tout nous est permis, n'est-ce pas? Il y a ceux qui observent ces choses-là. S'ils les observent, ils ne pêchent pas. S'ils ne les observent pas, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il faisait pour les distinguer de la société dans laquelle ils vivaient, ces gens-là. Hein? Et il y a des choses que le Seigneur nous met en garde de ne pas répéter ces erreurs. Paul, il les loue au verset 2. Il dit, je vous loue pour ces choses-là parce que vous avez gardé toutes ces choses-là. Mais plus loin, si vous regardez dans le verset 17 à 34, Paul, il ne le loue pas. Pourquoi? Il ne le loue pas parce que ils ont complètement changé la Sainte Cène, le repas du Seigneur. On n'a pas le temps, peut-être qu'on va le voir la semaine prochaine, mais je vous fais un petit résumé de cela parce que la semaine prochaine, on va passer au don spirituel. Alors, comme c'est des chapitres qui sont très longs, sur ces versets 17 à 34 du chapitre 11, je vous donne un petit compte-rendu, hein, pour que nous puissions voir que Paul, au verset 2, il loue les Corinthiens, l'église des Corinthes, parce qu'ils avaient gardé les choses qu'il lui avait dit. Mais ici, dans le verset 17, Paul, il ne le loue pas Pourquoi? Parce que ils avaient changé la signification de la scène du Seigneur, la Sainte Seine. Vous savez que à cette époque-là, ils se réunissaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ils se réunissaient pour manger, et pendant qu'ils mangeaient, une fois qu'ils avaient mangé, ils célébraient la Sainte Seine. Si vous voulez, il y avait une agape, et ensuite, ils faisaient la Sainte Seine. Mais dans cette église-là, il y avait des choses qu'ils faisaient et qui ne mettaient pas la vraie signification de la Sainte Seine, c'est-à-dire le partage, la communion, et celui d'être au regard les uns des autres. Et vous savez, la Seine joue un rôle destructeur et discriminatoire. Au lieu d'édifier chez les Corinthiens, il détruisait cette communion que normalement nous devons avoir. Parce que il nous faut savoir que les premiers chrétiens, je vous lis un peu ce que j'ai écrit ici pour que je vous fais les comptes rendus, hein. Il nous faut savoir que les premiers chrétiens aimaient à se réunir ensemble pour partager des repas fraternels qui sont appelés les agapes, n'est-ce pas? Nous aussi, on les appelle comme ça, hein. Hein? Comme on l'a vu dans le livre des Actes, chapitre 2, hein, verset 42-47, des versets que Roland il répète très souvent. C'était des repas solidaires, c'est-à-dire que tout le monde y ramenait là, il mettait en commun comme nous on fait, et tout le monde, normalement, il devrait manger ensemble. Mais Paul, pourquoi est-ce qu'il donne ces choses-là? Parce que il a entendu dire, hein, encore comme on a vu dans le chapitre précédent, par les gens de Chloé, hein, ce chrétien qu'il était là, qu'il rapportait à Paul ce qui se faisait à Corinthe. Il a entendu dire qu'il y avait des divisions. Hein. On a déjà vu ça. Et moi, je suis de Paul, moi, je suis de Cephas. Mais il y avait des divisions aussi dans les repas. Dans les repas. Les chrétiens, semble-t-il, ils étaient ensemble, mais ils mangeaient par des groupes séparés. Donc, au lieu qu'il y ait l'union, il y avait la division. La division. D'une manière presque ironique, il semble dire que ces divisions, ils peuvent être, d'une façon, ils peuvent être bonnes. Ils étaient mauvaises, mais d'une façon, ils peuvent être bonnes, parce que ces divisions qu'il y avait, on pouvait voir qui était vraiment chrétien et qui ne l'était pas. D'un côté, on mettait tout à part, ils mangeaient ensemble, ils partageaient, et de l'autre côté, il y avait des chrétiens qu'ils ramenaient des bonnes choses chez eux, ils se réunissaient entre eux et ils se mettaient à côté pour ne pas partager ces choses-là. Parce que vous savez, à cette époque, les gens, ils ne vivaient pas comme nous, d'une façon... On a les moyens aujourd'hui. Hein. À cette époque-là, il y avait des esclaves qui ne pouvaient pas et tout ça. Donc, voilà pourquoi ils apportaient tout, ils mettaient en commun, ils partageaient, il y avait une communion. Mais, de l'autre côté, il y avait un autre groupe qui vivait à part. Hein. Je m'en souviens, il y avait notre frère qui était là, comment s'appelle, Jean Albin, hein. On avait un pasteur américain qui ne voulait pas qu'il y ait du vin, n'est-ce pas? Et alors, il avait Jean Albin, au repas en commun, il s'est ramené avec des bières. Voilà. Hein? Voilà, c'est la même chose qui s'est passée ici. Hein? Donc, et comme je vous ai dit, on pouvait voir qui étaient les vrais chrétiens qui partageaient les agapes et les autres qui étaient regroupés entre eux. Et c'était ils vivaient l'hypocrisie. Ils disaient, bon, je suis chrétien, mais étaient des hypocrites parce que ils ne partageaient, parce que le repas du Seigneur à qu'ils faisaient après, c'était un partage des communions. Voilà pourquoi Paul, il leur dit, dans ce verset, il a dit, si vous vous réunissez pour manger seulement, mangez chez vous. Il a dit, la Sainte Cène, c'est un partage qu'il faut avoir avec les frères et sœurs. Donc, il faut vivre ce repas qui est pris ensemble, qu'il faut partager. Et justement, dans ce verset 17 à 34, Paul il montre ces choses-là, mais il nous montre aussi ce que ça signifie la Sainte Cène. Qu'est-ce que ça signifie la Sainte Cène? Et Paul, il leur montre ce que ça signifie la Sainte Cène. C'est un souvenir de ce que le Seigneur a fait. C'est un souvenir de ce que nous prenons ensemble en attendant de prendre ces choses-là avec le Seigneur. Si vous voulez, la Sainte Cène, il nous met dans le passé parce que nous souvenons de ce que le Seigneur a fait. Il nous met dans le présent parce que nous sommes ensemble et nous disons nous sommes sauvés grâce à ce sacrifice, et il nous transporte dans l'avenir lorsqu'il nous a dit que nous le prenons encore cette scène avec les seigneurs. Donc, dans ces versets que nous lisons, chaque fois qu'il y a la Sainte Cène, chez nous, au moins chez nous, je ne sais pas ailleurs, nous nous souvenons de ces trois choses-là. Le passé, quand le Seigneur Jésus, il a donné sa vie sur la croix. Le présent, dans lequel nous partageons cette communion, nous sommes en communion avec Jésus-Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit, et nous nous transportons dans l'avenir lorsque le Seigneur Jésus, il va revenir, et il nous a dit que nous allons prendre la Sainte Cène, mais de nouveau, avec lui. Donc, elle nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Si on peut voir, c'est un souvenir. C'est un souvenir. Et pas comme certains qui croient que la chose, il se répète. Comme vous savez, et je répète souvent, dans la messe, Christ, il meurt chaque fois qu'il y a qu'une messe est dite. Chaque fois. Imaginez-vous combien de fois Jésus meurt dans une journée. Tous ces prêtres qui disent la messe, et d'ailleurs la messe c'est un sacrifice pour eux, c'est un sacrement, c'est-à-dire que la messe apporte la grâce. Mais il n'y a pas de grâce qui arrive, parce que le Seigneur nous a dit qu'il est mort une fois pour toutes. Et c'est à ça que nous devons nous tenir. Jésus, il a donné son corps et il donne son sang pour le pardon des péchés. Et lorsqu'on partage le pain entre chrétiens et le vin, le chrétien, nous affirmons l'appartenance au peuple de la nouvelle alliance, parce que le pain et le vin, c'est le sang de la nouvelle alliance. Chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous déclarons que nous appartenons à cette nouvelle alliance. Que c'est une citation que Jérémie 31 il nous donne, et qu'on connaît, c'est l'ancienne alliance, et qui dit nouvelle, il dit l'ancienne. Pourquoi il y a eu un changement? Parce que l'ancienne n'a pas été observée. Donc la nouvelle, c'est Jésus qui l'a instaurée, et cette nouvelle alliance, elle a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Et c'est toutes ces choses-là. Si vous avez le temps, lisez ces versets du 17 à 34, il nous explique la signification de la Sainte Cène, et c'est à cela que nous devons nous unir, et nous devons la garder comme il est. Jésus, il dit que l'effusion de son sang est le moyen pour établir la nouvelle alliance. Il y a eu une alliance qui a été scellée avec Abraham, avec le sang, vous en souvenez. Mais cette alliance, c'était pour l'Ancien Testament, mais avec Jésus, il y a cette nouvelle alliance qui a été. Et tout le système juif a été remplacé par le système chrétien. Avec Jésus, tout est devenu nouveau. Avec Jésus, il y a eu cette nouvelle naissance. Et quand il dit, le Seigneur, celui-ci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi, de ce que le Seigneur a fait. On se souvient que grâce à ce sacrifice, nous obtenons le salut. Et par rapport au pain et à la coupe, cela veut dire encore, faites cette action. Faites-le chaque fois que vous vous réunissez. Parce que chaque fois qu'on se réunit, il y a une seule chose qui doit nous unir, c'est ce souvenir de Jésus-Christ. Quelqu'un qui participe à la Sainte Cène et ne se souvient pas de cela, il ne fait pas ce que Dieu demande. C'est ce souvenir-là qui nous tient debout. Et ce souvenir que Jésus il va revenir, qu'il va nous prendre, et c'est cela qui doit nous tenir debout. Hein? Vous savez que les catholiques, ils ont 7 sacrements. Hein? Nous, on a juste 2 ordonnances. Et c'est à ces ordonnances-là que nous devons nous en tenir. Le premier, c'est le baptême, parce que c'est les témoignages de ce que Jésus a fait. Et le deuxième, c'est la Sainte Cène. C'est le témoignage que nous appartenons à cette nouvelle alliance. Et si vous voulez, le verset 26, lisons un peu ce verset 26, chapitre 11, voilà ce qu'il dit. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ici, il nous donne la vraie signification. Vous savez, chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, hein, la Sainte Cène, c'est seulement pour les chrétiens. Mais chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous évangélisons. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur, ils ne comprennent pas. Nous leur disons qu'en faisant cela, Dieu nous a sauvés. Nous leur annonçons le salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons chaque fois que ceux qui ont Jésus dans son cœur, qui l'ont accepté en tant que Seigneur et Sauveur, ils ont été baptisés, qu'ils s'élèvent pour qu'il y ait une distinction. C'est pourquoi, en conséquence de toute cette explication, il nous dit le verset 27, hein, celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement. Comment est-ce qu'on peut boire la coupe et manger le pain indignement? Lorsqu'il y a les péchés dans notre cœur. C'est ça, boire. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait. Et donc, si quelqu'un il fait ça avec le péché, il n'a rien compris de ce que Jésus il a accompli sur la croix. Voilà pourquoi c'est très important de connaître la signification de la Sainte Cène. Et les Corinthiens, ils ne la mettaient pas en pratique. Voilà pourquoi que Paul, il met les choses en clair. Et il leur dit que la Sainte Cène, c'est la chose qui unit les chrétiens. Mais la façon de faire des Corinthiens, il est divisé. Et Jésus, il est venu pas pour diviser, mais il est venu pour unir. Et c'est à chacun de nous. Et si vous voulez, Paul, dans le verset 33 et 34, il revient à son point initial. Et à son point initial, quand au repas en commun qu'il prenait, hein, et à la Sainte Seine, versets 18 à 22. C'est-à-dire que la Sainte Seine, c'est quelque chose d'altruisme. On pense à l'autre, parce que Jésus, il est venu pour mourir pour l'autre. Et lorsque on prend la Sainte Seine, voilà pourquoi nous devons être en communion, une communion fraternelle, unie, parce que nous sommes unis avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et le dernier verset du 34, du 11, 34, je crois, oui, il dit, quant au détail de toutes ces choses-là, sur les repas du Seigneur, et peut-être sur d'autres choses, il le réglera oralement lorsqu'il va venir hein, auprès d'eux, lors d'une visite qu'il espérait. Et il dit aussi, si quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Chaque fois qu'on prend cette scène indignement, on reçoit un jugement. Quel est ce jugement? C'est le châtiment que Dieu donne. Peut-être la mort même, sur le moment. Voilà pourquoi il dit, examinez-vous. Examinons-nous avant de célébrer la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine, c'est la chose la plus importante qui doit unir chaque chrétien. Voilà ce que Paul dit dans ce chapitre 11. Et c'est un enseignement pour nous, un enseignement pour le partage. Acte 2, 40, 42, 44, n'est-ce pas? Partage, une communion fraternelle, unis les uns avec les autres, pas comme il fait les Corinthiens qui se réunissaient juste pour manger, pour se gaver, pour se remplir. Non, la Sainte Seine, c'est quelque chose de fraternel qui doit nous unir, nous doit, c'est l'altruisme qui compte. Comme Jésus il a fait, comme Dieu il a fait pour chacun de nous. Jésus il est venu pour nous, pas pour lui. Lui, il est Dieu, il n'avait pas besoin de ça, mais il s'est fait homme pour nous sauver. Voilà, que le Seigneur nous aide à avoir cette compréhension et que nous puissions la mettre en pratique toutes les fois. Parce que, encore une fois, la Bible, c'est notre livre de conduite. Si nous ne conduisons pas comme la Bible il nous dit, nous n'accomplirons jamais la volonté de Dieu. Car la Bible, c'est le livre d'amour que Dieu nous a donné, le livre dans lequel on découvre notre état de péché, mais on découvre aussi notre Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu nous dirige en ces choses. Voilà.